VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Ouagadougou, 19h30 à Cotonou. Bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, en Centrafrique, grève au marché du quartier PK5 de Bangui après le massacre de 20 musulmans à Kembe. Présidentielle au Libéria, l'ex-star du football Weah et le vice-président Boakai en tête. Manifestation au Bénin contre le régime de Patrice Talon. La justice sud-africaine rouvre la voie à des poursuites contre Jacob Zuma dans une affaire de vente d'armes. Et puis nous découvrirons la technique du biodigesteur à Ouagadougou.
Chez nous au Sahel, c'est surtout la bouse de vache remplit donc le digesteur.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nouvelle violence dans le sud-est de la Centrafrique. Au moins une vingtaine de musulmans ont été tués mardi dernier à Kembe par des anti-balaka. À Bangui, c'était la consternation ce matin au grand quartier musulman du PK5, comme l'a constaté notre correspondant Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu mardi matin. Les assaillants assimilés à des anti-balaka, appelés encore autodéfense, ont visé les positions des hommes de l'UPC, un groupe armé majoritairement peul, dirigé par Ali Darassa, un mercenaire nigérien. Plusieurs civils musulmans qui ont fui pour se réfugier à la mosquée de la ville ont été pris à partie par les anti-balaka. Bilan, une vingtaine de morts, parmi lesquels un général de l'UPC dénommé Sorongo. La nouvelle connue seulement jeudi a créé une véritable consternation, mais aussi un sentiment de peur à Bangui. Le PK5, le grand quartier musulman de la capitale, a observé ce vendredi une journée ville morte en protestation à cette tuerie. Les activités étaient paralysées au marché. Face à l'ampleur des violences à l'intérieur du pays, la société civile a appelé aujourd'hui la MINUSCA, la force de l'ONU, à plus de responsabilités. Elle annonce 3 jours de deuil sur l'ensemble du pays à partir du 24 octobre prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Gabon, un huissier de justice s'est présenté chez l'opposant Jean Ping en présence des forces de l'ordre pour lui signifier la saisie de ses biens, dont sa résidence et une dizaine de voitures. Et ce, dans une affaire datant de 2015, affaire l'opposant à un proche de la présidence. Monsieur Ping a dénoncé une instrumentalisation politique de la justice. Près d'un quart des quelques 30 000 réfugiés congolais en Angola sont rentrés dans leur pays. Ils avaient fui les violences dans la région du Kasaï entre les forces de sécurité et des milices Kamina Tapu. 7 morts dans un crash d'avion dans le nord-est de l'Angola. L'appareil a décollé jeudi en fin d'après-midi de Dundo, près de la frontière congolaise. Et l'avion était à destination de la capitale Luanda. Les causes de l'accident sont encore inconnues. L'ancienne star du football, George Weah, est en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Libéria dans 11 des 15 régions du pays, selon des résultats partiels. Les précisions de Jacques Aristide.
Les résultats tombent au compte-goutte 3 jours après le scrutin. George Weah, ancien buteur du Paris Saint-Germain et du Milan AC, et le vice-président Joseph Boakye ont tous deux affiché leur confiance quant à l'issue du vote. Un représentant du Congrès pour le changement démocratique, parti de Weah, a lancé à la radio une invitation à une célébration de pré-victoire devant le siège du mouvement, envisageant même une victoire dès le premier tour. Le camp de Boakye, qui se présente pour le parti de l'unité, indique que les nouvelles en provenance de tout le pays annoncent un second tour aisé pour le vice-président face à Weah. Criant à la fraude, les formations de 3 autres candidats ont annoncé leur intention de contester les résultats. Toutefois, les observateurs de l'Union européenne, du Centre Carter et du National Democratic Institute n'ont signalé aucune irrégularité. En 2005, George Weah avait été battu par Ellen Johnson Sirleaf, première femme chef d'État en Afrique, qui a été reconduite en 2011. Après 2 guerres civiles meurtrières dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.
Le gouvernement nigérian a annoncé la condamnation de 3 à 31 ans de prison de 45 djihadistes de Boko Haram lors d'un procès à huis clos. Le ministre de l'Information, Lai Mohamed, n'a donné aucune indication. quant à l'identité des personnes condamnées ni sur le lieu de leur arrestation. Quelques centaines de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui à Cotonou à l'appel du Front pour le sursaut patriotique, une coalition de syndicats et partis de l'opposition. Ils se sont rassemblés pour protester contre le régime du président Patrice Talon. Plus de détails avec Saloua Jaafari.
Ce matin, Cotonou était en plein ébullition. Enfant du Bénin debout, debout contre la faim, scandaient les manifestants habillés en rouge. Des responsables syndicaux et une dizaine de députés ont participé à ce mouvement de protestation contre ce qu'ils appellent la gouvernance mafieuse, antisociale et autocratique de Patrice Talon. Les participants entendent protester contre le pillage systématique des ressources par le clan du président. La suppression de la gratuité de l'enseignement supérieur est parmi les décisions qui ont fait monter la colère. Patrice Talon a été élu président en avril 2016. L'ancien homme d'affaires a engagé son pays dans des réformes pour tenter de faire face au ralentissement de l'économie, conséquence de la récession au Nigeria, son géant voisin. Mais son orientation libérale suscite de vives critiques et inquiétudes.
En Mauritanie, l'ancien sénateur Mohamed Ould Gada, inculpé pour corruption et détenu à Nouakchott depuis 2 mois, a annoncé qu'il a entamé une grève de la faim. Avant son arrestation le 11 août dernier, cet ex-sénateur avait mené pendant plusieurs mois une fronde contre le projet de réforme de la Constitution, prévoyant notamment la disparition du Sénat. Au Kenya, à Bondo, la ville d'où est originaire le leader de l'opposition, Raila Odinga, des coups de feu ont été tirés lors d'une manifestation pacifique. 2 personnes ont été tuées à Kisumu, autre fief d'Odinga. Ce sont 20 personnes qui ont été admises à l'hôpital. En Somalie, des missions surprises des ministres de la Défense et du chef de l'armée. Aucun des 2 hommes ne s'est exprimé. Pourtant, ces démissions sont un nouveau coup dur pour le gouvernement dans ce pays ravagé par les conflits depuis 25 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président américain Donald Trump a décidé de ne pas certifier l'accord sur le nucléaire iranien et a prôné une ligne dure contre Téhéran. Abdourahman Dia.
Le président Trump, sur un ton grave, a annoncé une série de mesures contre le régime iranien. D'abord, il a décidé d'imposer des sanctions initiales contre Téhéran et contre des membres de la garde révolutionnaire islamique. Cette unité d'élite de l'armée iranienne est accusée de soutenir des groupes que Washington qualifie d'organisations terroristes, comme le Hezbollah ou le Hamas. Pour le locataire de la Maison-Blanche, l'Iran ne respecte pas l'esprit de l'accord sur le nucléaire. Le président Donald Trump n'a certes pas renoncé à l'accord signé avec 5 autres pays et l'Iran, mais il renvoie la balle au Congrès qui a 60 jours pour décider de réimposer ou non les sanctions levées depuis 2015 après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin ont mis en garde contre un retour en arrière aux conséquences imprévisibles. Même au sein du Parti républicain, les critiques ne manquent pas. Des membres de son administration, dont le général Jim Mattis, chef du Pentagone, ont affirmé que l'accord signé sous Obama était dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.
En Irak, les forces armées du pays ont repris aujourd'hui des positions occupées depuis 2014 par les Peshmerga, kurdes, et ce dans le sud de la province pétrolière de Kirkouk, une région que le Kurdistan autonome dispute aux autorités de Bagdad. La Turquie a déployé des dizaines de soldats et des blindés dans la province syrienne d'Idleb pour y instaurer une zone de désescalade visant à faire taire les armes dans cette région contrôlée par les djihadistes. Ce déploiement, annoncé aujourd'hui par Ankara, a également pour objectif de dissuader les milices kurdes YPG soutenues par les États-Unis, mais bêtes noires de la Turquie, de dissuader donc ces milices de gagner davantage de terrain dans le nord de la Syrie. Madrid et le FMI ont averti que la crise en Catalogne pourrait menacer la croissance en 2018, au moment même où le leader séparatiste catalan était pressé par son aile dure de proclamer la sécession. Le gouvernement espagnol a donné jusqu'à jeudi prochain au président catalan Carles Puigdemont pour faire machine arrière. Dans le cas contraire, Madrid annoncera les mesures nécessaires pour suspendre l'autonomie de la Catalogne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
Le gouvernement ghanéen ferme des stations-service jugées à haut risque suite à l'explosion de deux d'entre elles le week-end dernier à Accra. Il y a eu 7 morts et 132 blessés. 9 incidents similaires ont été enregistrés en 3 ans. Le plus meurtrier s'est déroulé en juin 2015 avec plus de 150 personnes tuées. L'Agence nationale des hydrocarbures sera appuyée par une force de sécurité qui sera effective dans les 30 prochains jours. Le leader sénégalais et ouest-africain de l'aviculture, Sedima, se diversifie. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 32 milliards de francs CFA et un effectif d'environ 780 employés, la compagnie assure plus de 20% de la production nationale de poussins. 40 ans après sa création, dans un petit poulailler de Cœur Massar, à Dakar, Sedima envisage l'ouverture de filiales au Mali, au Congo et en Guinée équatoriale. La compagnie est aussi en discussion avec l'américain KFC afin d'ouvrir très prochainement un restaurant franchisé à Dakar. L'homme d'affaires béninois Samuel Dossou Wawere vient de gagner son procès contre le groupe Bolloré dans la bataille pour la reconstruction de la ligne de chemin de fer Cotonou-Niamey. Il assure que son groupe est prêt techniquement et financièrement et mobilisera plus de 1 000 milliards de francs CFA. Depuis quelques années, l'homme d'affaires est actionnaire dans plusieurs établissements bancaires et possède plusieurs jets privés. Sa compagnie d'aviation d'affaires Comfort Jet Service, établie au Togo, dispose d'une flotte de plus de 100 avions. Une diversification qui donne un second souffle à son groupe.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Nous démarrons par du foot, bien sûr, et la Coupe du Monde des moins de 17 ans, les deux représentants africains du jour battus.
En Inde, face aux jeunes Brésiliens, le MENA du Niger a été battu 2-0. Un peu plus tôt, le Sili National de Guinée avait été battu 3-1 par l'Allemagne. Les chances africaines reposent désormais sur le Mali et sur le Ghana, qualifiés pour les huitièmes de finale.
Nouveau scandale à la FIFA, cette fois sur les droits télé de la Coupe du Monde.
La commission d'éthique de la FIFA a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de Nasser Al-Khelaifi, PDG de beIN Media et patron du Paris Saint-Germain. C'est un soupçon de corruption privée qui a conduit la justice suisse à ouvrir une enquête visant à la fois Jérôme Valk, ancien numéro 2 de la FIFA, déjà suspendu 10 ans pour d'autres faits de corruption, et Nasser Al-Khelaifi. Valk est soupçonné d'avoir accepté des avantages de la part d'Al-Khelaifi concernant les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030. Valk, tout comme beIN Media, rejette ces accusations.
L'Algérie se cherche un nouveau sélectionneur.
La Fédération algérienne de football veut qu'un Algérien succède à la tête de l'équipe nationale au sélectionneur espagnol Lucas Alcaraz, limogé mercredi. Les membres du bureau fédéral ont demandé au président de la FAF, Khairedine Zetchi, d'entrer en contact avec Jamel Belmadi et Rabah Madjer.
Et puis cette mauvaise nouvelle, grave blessure confirmée pour Benjamin Mendy.
Oui, le latéral gauche de Manchester City et de l'équipe de France, opéré fin septembre du ligament croisé antérieur du genou droit, sera absent 6 mois. C'est désolé son entraîneur Pep Guardiola. Il est donc à la recherche d'un remplaçant en janvier. On rappelle quand même que Mendy avait été transféré de Monaco à Manchester City cet été pour 58 millions d'euros. Il était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire.
Tennis, les Masters de Shanghai.
L'Argentin Juan Martín del Potro, 23e joueur à l'ATP, a battu en 4-6, 6-1, 6-4 le Serbe Viktor Troicki. Il se qualifie pour les demi-finales du Masters, mais il est incertain en raison d'un choc au poignet gauche.
Et bien sûr, la NBA, le championnat de basket nord-américain, la saison reprend dans quelques jours et on parle du contrat mirobolant signé par Joel Embiid.
Le basketteur camerounais a signé une prolongation de contrat de 5 ans avec les Sixers de Philadelphie contre, tenez-vous bien, 148 millions de dollars. Le Camerounais va donc devenir l'un des sportifs africains les mieux payés de l'histoire. Un salaire exceptionnel pour un joueur talentueux et fantasque, mais qui a enchaîné les blessures depuis son arrivée en NBA. C'était en 2014.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, l'actualité de la semaine a été dominée par l'incarcération de Souleymane Camarate Kone alias Soul to Soul, chef du protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Soul to Soul a écrit une lettre affirmant être un simple faire-valoir et que c'est Guillaume Soro qui est visé. En exclusivité sur VOA Afrique, Idriss Fall a recueilli la réaction du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly.
Je ne ferai pas de commentaires sur ce genre de propos. Je vous dis que c'est une affaire donc, de justice. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Une procédure a été ouverte. Elle se poursuit.
Cet appel est intervenu dans des mutineries. Certains, peut-être sous la forme de spéculation, parlent de Guillaume Soro. Est-ce que vraiment il y a un problème entre le président de l'Assemblée nationale et le président Alassane Ouattara?
Je suis ici à Washington dans le cadre de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous avons de bonnes perspectives en matière donc, de développement donc, avec le soutien de ces institutions. Pour les Ivoiriens, c'est ça qui les intéresse. Ils veulent la paix, ils veulent le développement.
Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a un problème entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro?
Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à poser la question au président de l'Assemblée nationale.
Mais il n'est pas à Abidjan depuis plusieurs semaines.
Mais vous pouvez l'appeler là où il se trouve et vous lui posez la question.
Les mutineries, il y a des soldats, d'anciens rebelles qui ont pris les armes, l'État a satisfait leurs revendications. Est-ce que ce n'était pas une manière d'ouvrir une boîte de Pandore?
Non, ce n'était pas du tout une manière d'ouvrir une boîte de Pandore. Mais ce sont des engagements qui ont été pris avant l'arrivée du président Alassane Ouattara donc, aux affaires. Que tous ces engagements ont été aujourd'hui traités, que ce soit par rapport donc, aux militaires ou par rapport donc, aux fonctionnaires. Et il fallait bien les traiter un jour.
Des engagements pris avec des rebelles avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Donc, qui a pris ces engagements? Est-ce que c'est M. Ouattara ou bien c'est M. Guillaume Soro, chef des rebelles à l'époque?
Les jeunes gens disent qu'il leur a été dit par leur chef à l'époque que pour aller libérer donc le pays, promesse leur avait été faite par leur chef, toucher une prime que l'on appelle la prime Ecomog pour eux, et qui était, je dirais, le reversement d'une prime qui serait destinée à l'Ecomog si c'était l'Ecomog qui avait fait ce travail. Et qu'à partir du moment où c'est eux donc, qui allaient se battre pour faire cette libération donc, de la Côte d'Ivoire, ben, ils considéraient que cette prime donc, leur était tenue et que cela avait été promis par leur chef. Encore une fois, le président Ouattara est arrivé donc, aux affaires après avoir gagné les élections en octobre 2010. Nous avons eu la crise post-électorale. Il a prêté serment en mai 2011. Nous sommes venus et donc nous avons constaté après qu'il y avait ce problème. Il y avait des engagements au niveau des fonctionnaires qui eux, avaient été pris par décret donc, du président Gbagbo à l'époque. Et donc toutes ces questions ont aujourd'hui été traitées. Tous ces passifs ont été aujourd'hui liquidés. La Côte d'Ivoire a retrouvé une situation de paix et de sérénité. Et aujourd'hui, donc, nous travaillons à satisfaire donc, le quotidien donc, de nos Ivoiriens et des Ivoiriens.
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
À Bangui, le grand marché du PK5 était paralysé aujourd'hui. Les habitants de ce quartier à majorité musulmane protestaient contre le meurtre d'une vingtaine de membres de leur communauté à Kembe, dans l'est du pays. La société civile, elle, annonce 3 jours de deuil à compter du 24 octobre prochain. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu mardi matin. Les assaillants, assimilés à des anti-balaka, appelés encore autodéfense, ont visé les positions des hommes de l'UPC, un groupe armé majoritairement peul, dirigé par Ali Darassa, un mercenaire nigérien. Plusieurs civils musulmans qui ont fui pour se réfugier à la mosquée de la ville ont été pris à partie par les anti-balaka. Bilan, une vingtaine de morts, parmi lesquels un général de l'UPC dénommé Sorogo. La nouvelle, connue seulement jeudi, a créé une véritable consternation, mais aussi un sentiment de peur à Bangui. Le PK5, le grand quartier musulman de la capitale, a observé ce vendredi une journée ville morte en protestation à cette tuerie. Les activités étaient paralysées au marché. Abdourahmane Borno, porte-parole du comité des sages musulmans du 3e arrondissement.
Les musulmans du 3e arrondissement, ils ont fait une deuil à cause de leurs frères qui sont tués vers Kembe. Ils ont un truc de prier et les anti-balaka sont venus encercler la mosquée pour tuer. Il y a au moins 20 et quelques morts. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les musulmans sont en deuil. Je demande à la population centrafricaine, et vraiment, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Notre sang est beaucoup versé. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, ce que nous voulons, seulement la paix. S'il y a quelque chose, c'est mieux qu'on laisse la justice faire son travail. La police est là et la gendarmerie est là.
Face à l'ampleur des violences à l'intérieur du pays, la société civile appelle la MINUSCA, la force de l'ONU, à plus de responsabilités. Paul Cresson-Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile.
La situation de Bokaranga a été améliorée, mais nous estimons que cela dénote effectivement de la mauvaise foi de la MINUSCA, parce que cette situation laisse penser que la MINUSCA a la capacité effectivement de prévenir le conflit. Elle ne l'a pas fait et Bokaranga n'est pas l'unique ville de la République centrafricaine. Il y a d'autres villes encore qui sont envahies par les groupes armés. Ce qui est fait à Bokaranga, nous voulons et nous exigeons que cela soit fait également pour les autres villes qui sont envahies afin de permettre à tout le peuple centrafricain de connaître la quiétude.
La société civile annonce par ailleurs 3 jours de deuil sur l'ensemble du pays à partir du 24 octobre prochain. Pure coïncidence avec la date de la visite annoncée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le pays.
Nous allons décréter 3 jours de deuil du 24 au 27 octobre. Nous voulons préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une initiative visant à paralyser les activités, mais nous demandons au peuple centrafricain d'observer simplement les jours de deuil. Cela se traduit ou se matérialise par le port des tenues de couleur noire ou l'attache des banderoles ou des bandeaux de couleur noire. Et puis le soir, les concerts de casseroles pendant ces 3 jours de deuil du 24 au 27 octobre. Et ces concerts de casseroles, une fois de plus, la précision vaut la peine. Il ne s'agit pas d'une marche. Que le peuple centrafricain reste chacun chez lui et procède à ce concert de casseroles sans pour autant poser trouble à l'ordre public, parce que nous estimons que le peuple centrafricain est suffisamment mature pour éviter toute récupération, quelle qu'elle soit.
Le gouvernement centrafricain et la MINUSCA ne se sont pas encore officiellement prononcés sur cette situation qui plonge le pays à nouveau dans la crainte d'un regain de violence entre communautés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La justice sud-africaine a rejeté un appel du président Jacob Zuma contre la décision de relancer à son encontre 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. La Cour suprême d'appel de Bloemfontein a ainsi confirmé qu'il pouvait être poursuivi dans un dossier relatif à des ventes d'armes alors qu'il était vice-président. Il avait été limogé en 2005 et inculpé pour pot de vin sur un contrat d'armement signé en 1999 avec des entreprises européennes. Mais ses poursuites ont été abandonnées en 2009. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Paris la spécialiste de l'Afrique du Sud, Marianne Séverin.
Le président Zuma se retrouve encore plus affaibli parce que nous sommes dans un contexte politique où ce président est largement contesté pour des faits de corruption qui datent de bien avant sa prise de pouvoir à la présidence de l'ANC et du pays. Au sein de l'ANC, on n'arrive pas à le faire démissionner comme ça s'était passé dans le cas de l'ex-président Thabo Mbeki en 2008. C'est ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'au sein même du parti, on savait qu'il avait cette sale habitude d'être corrompu et aujourd'hui, on voit l'étendue des dégâts. Donc aujourd'hui, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui va se passer. Ça fait au moins 3 fois qu'au Parlement, on essaye de faire renvoyer Jacob Zuma de la présidence. Normalement, il ne se représente pas à la présidence du parti au mois de décembre, mais ça dépendra de qui sera le futur président du parti et est-ce que Jacob Zuma va accepter de partir après décembre 2017, on n'en est même pas sûr. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en Afrique du Sud, le président peut être jugé, se retrouver en prison en dépit de sa position à la tête de l'État.
Comment l'on explique le fait qu'il n'y ait pas jusqu'ici de destitution possible, si l'on peut comparer notamment à l'ex-présidente brésilienne et l'ex-présidente sud-coréenne, par exemple?
C'est à cause des parlementaires au sein de l'ANC. La philosophie au sein de l'ANC, c'est on ne peut pas se mettre d'accord avec l'opposition parce que ça ferait le jeu de l'opposition. Donc la difficulté et la réponse se trouvent au sein même de l'ANC et on aura la réponse dans quelques mois.
783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. Comment peut-on être encore président avec tout ça sur le dos? C'est la question que peut-être les néophytes, les gens pourraient se poser.
Je me pose la même question. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que c'est une succession d'accusations de corruption. C'est-à-dire que si c'était arrêté à un fait de corruption, on lui aurait peut-être trouvé une excuse en disant « il savait pas », etc., etc. Mais là, c'est une succession. C'est, en gros, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui passe son temps à ne faire que ça.
Marianne Séverin, docteur en sciences politiques et chercheur associé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La conférence internationale sur le biodigesteur s'est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, du 10 au 12 octobre. L'occasion pour notre correspondant de s'intéresser à cette technique qui permet de convertir des déchets organiques en énergie. Reportage dans la capitale burkinabé de Zoumana Wonogo.
Du thème de la rencontre, l'Afrique à l'ère des changements climatiques, nous avons demandé à l'expert en énergie, Mamadou Dianka, quel lien de cause à effet avec le biodigesteur.
Un biodigesteur, pour simplifier, on peut imaginer c'est comme notre estomac. Bon, donc, ici, il s'agit donc d'une unité de 6 mètres cubes. Ça peut aller jusqu'à 12 mètres cubes environ, en fosse. Il y a beaucoup de modèles, bien sûr, mais ici, il s'agit de vraiment en fosse et qui recueille donc les déchets organiques. Chez nous, au Sahel, c'est surtout la bouse de vache. On remplit donc le digesteur de bouse de vache avec une quantité d'eau et sous des conditions de température et de pression. Aller sur 30 jours, ça produit donc ce qu'on appelle donc le biogaz qui est un combiné de CH4, donc le méthane, et le gaz sulfureux.
Pionnier dans le biodigesteur, le programme national du Burkina a pour slogan « Avec le biodigesteur, vivons mieux au village ». Xavier Bambara, le coordonnateur du programme, en donne le sens.
Lorsqu'on arrive pour un ménage en milieu rural à accroître sa production alimentaire pour soi-même d'abord et qu'on arrive à vendre le surplus sur le marché, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, la technologie du biodigesteur a cette capacité de le faire parce que au-delà du biogaz, nous avons l'engrais organique qui est utilisé aujourd'hui par les ménages dans les productions végétales, dans les productions animales et même en pisciculture.
Nous sommes allés à la rencontre des principales bénéficiaires de cette technologie, à savoir les femmes. Écoutons Rekiatou Kabouri.
Le biodigesteur change positivement la vie d'une femme, dans la mesure où ça réduit les longues distances pour aller chercher du bois. Nous avons aussi des problèmes respiratoires. Le biodigesteur contribue à réduire cela. La préparation avec du bois dans la cuisine traîne. La fumée dans les yeux et l'odeur que ça dégage. Les risques de brûlure.
Béatrice Comi embouche la même trompette des avantages du biodigesteur pour les femmes en milieu rural.
La bouse de vache qui traîne dans les cours, là, si on ramasse ça, met dans le biodigesteur, bon, la cour devient propre. Bon, avec le biodigesteur, les femmes ont envie plus d'arranger les cuisines. Donc, les femmes modernisent encore leur cuisine. Et en plus de ça, maintenant, bon, ça nous apporte vraiment les changements parce qu'avec ça, bon, il y a plus de temps pour s'occuper un peu de la famille. Et puis, bon, on n'a plus besoin d'aller chercher du bois, on prend moins de risques. aussi pour avoir l'énergie. Et puis aussi, bon, ça rend la femme aussi propre parce qu'elle ne se salit plus dans la cuisine.
Zoumana Wonogou, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Aiden Hautecourt. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez avec nous après un court point sur l'actualité. Retrouvez notre émission interactive, L'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, consacrée au retrait des États-Unis de l'UNESCO.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.